Chapitre 2. Question. Je ne suis pas sûr de comprendre l'objet de ce livre. Je ne sais pas vraiment où commencer. Réponse. Prenons le temps. Question. Combien de temps devons-nous prendre? Déjà, il m'a fallu 5 mois pour passer du premier chapitre à celui-ci. Je sais, les lecteurs s'imaginent que c'est écrit d'une seule traite. Ils ne réalisent pas que 20 semaines séparent les 32e et 33e paragraphes de ce livre. Ils ne comprennent pas que les moments d'inspiration sont parfois éloignés de 6 mois. Combien de temps devrons-nous prendre? Réponse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, prenons le temps comme premier sujet, comme point de départ. Question. Oh, d'accord. Mais puisque nous y sommes, pourquoi faut-il vraiment des mois pour compléter un simple paragraphe? Pourquoi espaces-tu autant tes visites? Réponse. Mon cher et merveilleux ami, je n'espace pas mes visites. Je ne suis jamais loin de toi. Tu n'en as tout simplement pas conscience. Question. Pourquoi? Pourquoi ne suis-je pas conscient de toi si tu es toujours ici? Réponse. Parce que ta vie est absorbée par autre chose. Soyons francs. Tu as passé 5 mois plutôt chargés. Question. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il s'est passé un tas de choses. Réponse. Et tu as fait en sorte que ces choses soient plus importantes que moi. Question. Cela ne me semble pas être ma vérité. Réponse. Je t'invite à examiner tes actions. Tu t'es profondément engagé dans ta vie matérielle. Tu as accordé très peu d'attention à ton âme. Question. Ça a été une période avec beaucoup de défis. Réponse. Oui. Raison de plus pour inclure ton âme dans le processus. Ces derniers mois auraient pu être bien plus agréables avec mon aide. Alors, puis-je te suggérer de ne pas perdre le contact? Question. J'essaie de rester proche, mais j'ai l'impression de me perdre, d'être pris, comme tu le dis, dans mon propre drame. Et alors, pour une raison ou pour une autre, je n'arrive pas à te consacrer du temps. Je ne médite pas, je ne prie pas, et je n'écris certainement pas. Réponse. Je sais. C'est une ironie de la vie. C'est quand tu as le plus grand besoin de notre lien que tu t'en éloignes. Question. Comment puis-je cesser de le faire? Réponse. Cesse de le faire. Question. C'est ce que je viens de dire, mais comment? Réponse. Tu cesses de le faire en cessant de le faire. Question. Ce n'est pas aussi simple. Réponse. C'est aussi simple. Question. J'aimerais que ça le soit. Réponse. Alors, ce le sera vraiment, car tes souhaits sont mes ordres. Rappelle-toi, mon bien-aimé, que tes désirs sont mes désirs. Ta volonté est ma volonté. Question. Très bien, d'accord. Alors j'aimerais que ce livre soit terminé avant mars. Nous sommes en octobre. J'aimerais qu'il n'y ait plus de trous de 5 mois dans l'acheminement du contenu. Réponse. Alors, cela se passera ainsi. Question. Bien. Réponse. À moins que non. Question. Oh mon vieux, devrons-nous vraiment jouer à ce genre de jeu? Réponse. Non, mais jusqu'ici, c'est ainsi que tu as décidé de vivre ta vie. Tu changes sans cesse d'idée. Rappelle-toi. La vie est un processus continuel de création. Tu crées la vie à chaque instant. Souvent, la décision que tu prends aujourd'hui n'est pas le choix que tu feras demain. Mais tous les maîtres ont un secret. Toujours choisir la même chose. Question. Continuellement, une fois ne suffit pas? Réponse. Continuellement, jusqu'à ce que ta volonté se manifeste dans ta réalité. Pour certains, cela pourrait prendre des années. Pour d'autres, des mois. Pour d'autres, des semaines. Pour ceux qui approchent la maîtrise, des jours, des heures ou même des minutes. Pour les maîtres, la création est instantanée. Tu pourras dire que tu es sur la voie de la maîtrise lorsque tu verras rétrécir la distance entre la volonté et l'expérience. Question. Tu disais, je cite, « Souvent, la décision que tu prends aujourd'hui n'est pas le choix que tu feras demain. » Mais alors, es-tu en train de dire que nous ne devrions jamais nous permettre de changer d'idée? Réponse. Change d'idée aussi souvent que tu le veux. Mais rappelle-toi que chaque fois que tu changes d'idée, cela produit un changement dans la direction de l'univers entier. Quand tu te fais une idée à propos d'une chose, tu engages l'univers dans une direction. Des forces qui dépassent ta capacité de comprendre, des forces beaucoup plus subtiles et plus complexes que tu ne peux l'imaginer sont engagées dans un processus dont tu ne fais que commencer à comprendre la dynamique complexe. Ces forces et ce processus font tous partie de l'extraordinaire réseau d'énergie interactive qui comprend la totalité de l'existence que tu appelles la vie même. Ils sont essentiellement moi. Question. Alors, quand je change d'idée, je te complique la tâche, n'est-ce pas? Réponse. Pour moi, rien n'est compliqué, mais c'est à toi que tu peux compliquer la tâche. Par conséquent, envisage une chose avec résolution et fermeté d'intention. Et n'en détache pas ton esprit avant de l'avoir produite dans la réalité. Reste concentré, reste centré. C'est ce qu'on entend par la résolution. Si tu choisis une chose, choisis-la avec toute ta force, avec tout ton cœur. Ne sois pas timoré, continue. Continue d'aller vers elle, sois déterminé. Question. Un refus n'est pas une réponse. Réponse. Exactement. Question. Mais que faire si un refus est la bonne réponse? Que faire si ce que nous voulons ne nous est pas destiné, n'est pas pour notre bien, pas dans notre meilleur intérêt? Alors, tu ne nous le donneras pas, n'est-ce pas? Réponse. C'est faux. Je vais te donner tout ce que tu invoques, que ce soit bon ou mauvais, pour toi. As-tu examiné ta vie ces derniers temps? Question. Mais on m'a enseigné qu'on ne peut avoir tout ce qu'on désire, que Dieu ne nous le donnera pas si ce n'est pas pour notre plus grand bien. Réponse. C'est ce que les gens te disent lorsqu'ils ne veulent pas que tu sois déçu à propos d'un résultat en particulier. Tout d'abord, soyons clairs à propos de notre relation. Je ne te donne rien. C'est toi qui l'invoques. Le tome 1 explique exactement de quelle façon en détail. Deuxièmement, je ne prononce pas de jugement sur ce que tu invoques. Je ne qualifie pas une chose de bonne ou de mauvaise. Il vaut mieux que tu ne le fasses pas, toi non plus. Tu es un être créatif, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu peux obtenir tout ce que tu choisis, mais tu peux ne pas obtenir ce que tu veux. En fait, tu n'auras jamais rien de ce que tu veux, si tu le veux suffisamment. Question. Je sais, tu as expliqué cela dans le tome 1 aussi. Tu disais que le fait de vouloir une chose la repousse loin de nous. Réponse. Oui. Et te rappelles-tu pourquoi? Question. Parce que les pensées sont créatives et que le fait de penser vouloir une chose est une affirmation envoyée à l'univers, la déclaration d'une vérité que l'univers produit ensuite dans ma réalité. Réponse. Précisément. Exactement. Tu as vraiment appris. Tu comprends vraiment. C'est superbe. Oui, c'est ainsi que ça fonctionne. Dès que tu dis « je veux » quelque chose, l'univers dit « en effet, tu le veux » et te donne cette expérience précise, l'expérience du fait de vouloir. Tout ce que tu places après le mot « je » devient ton ordre créatif. Le génie dans la bouteille que je suis n'existe que pour t'obéir. Je produis ce que tu invoques. Tu invoques précisément ce que tu penses, sens et dis. C'est aussi simple que cela. Question. Alors dis-moi encore. Pourquoi est-ce que je mets tellement de temps à créer la réalité que je choisis? Réponse. Pour un certain nombre de raisons. Parce que tu ne crois pas pouvoir avoir ce que tu choisis. Parce que tu ne sais pas quoi choisir. Parce que tu essaies sans cesse de te figurer ce qu'il y a de mieux pour toi. Parce que tu veux à l'avance des garanties sur tes choix. Et parce que tu changes sans cesse d'idée. Voyons si je comprends bien. Je ne devrais pas essayer de déterminer ce qu'il y a de mieux pour moi? Réponse. Mieux est un terme relatif, en rapport avec 100 variables. Cela rend les choix très difficiles. Il ne devrait y avoir qu'une seule considération lorsqu'on décide quoi que ce soit. Est-ce que cela affirme qui je suis? Est-ce que cela annonce qui je choisis d'être? Toute la vie doit être une telle déclaration. En fait, toute la vie en est une. Tu peux laisser cette déclaration se faire par hasard ou par choix. Une vie vécue par choix est une vie d'action consciente. Une vie vécue au hasard est une vie de réaction inconsciente. La réaction n'est que cela, une action que tu as déjà accomplie. Lorsque tu agis, tu évalues l'information qui entre, fouille ta banque de mémoire à la recherche de la même expérience ou presque, et agis de la même façon qu'avant. C'est un travail de l'esprit. Et non de l'âme. Ton âme voudrait que tu fouilles sa mémoire pour voir comment tu pourrais créer une expérience véritablement authentique de toi dans l'instant présent. C'est l'expérience d'introspection dont tu as si souvent entendu parler, mais tu dois littéralement perdre la tête pour la faire. Lorsque tu passes ton temps à essayer de découvrir ce qui vaut mieux pour toi, tu perds ton temps. Mieux vaut gagner du temps qu'en perdre. Perdre la tête est une façon magnifique de gagner du temps. Les décisions sont rapides, les choix sont rapidement activés, parce que ton âme ne crée qu'à partir de l'expérience présente, sans examen, ni analyse, ni critique des rencontres passées. Rappelle-toi ceci, l'âme crée, l'esprit réagit. Dans sa sagesse, l'âme sait que ton expérience, en cet instant, t'a été envoyée par Dieu avant que tu en aies conscience. C'est ce qu'on entend par l'expérience pré-ante, présente. Même si tu la cherches, elle est déjà en route vers toi, car avant même que tu ne demandes, je t'aurais répondu. Chaque instant présent est un glorieux cadeau de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle le présent. L'âme cherche intuitivement la circonstance et la situation parfaite qu'il te faut à chaque instant pour guérir d'une pensée fausse et te donner l'expérience légitime de qui tu es vraiment. L'âme désire te ramener à Dieu, te ramener chez toi, vers moi. L'âme veut se connaître de façon expérientielle et ainsi me connaître, car l'âme comprend que toi et moi ne faisons qu'un, même si l'esprit nie cette vérité et que le corps agit à partir de ce déni. Par conséquent, au moment de grandes décisions, perds la tête et cherche ton âme. L'âme comprend ce que l'esprit ne peut concevoir. Si tu passes ton temps à essayer d'imaginer ce qui vaut mieux pour toi, tes choix seront prudents, tes décisions s'éterniseront et ton voyage débutera sur une mer d'attente. Si tu ne fais pas attention, tu vas te noyer dans tes attentes. Question. C'est toute une réponse. Mais comment écouter mon âme? Comment reconnaître la vérité de ce que j'entends? Réponse. L'âme te parle sous forme de sentiments. Écoute tes sentiments. Suis tes sentiments. Respecte tes sentiments. Question. Pourquoi me semble-t-il que le fait de respecter mes sentiments est précisément la cause de mes problèmes? Réponse. Parce que tu considères la croissance comme un problème et l'immobilité comme de la sécurité. Je te dis ceci. Tes sentiments ne t'attireront jamais des problèmes parce que tes sentiments constituent ta vérité. Si tu veux vivre une vie où tu ne suivras jamais tes sentiments, mais où chaque instant sera filtré à travers la machinerie de ton esprit, continue. Prends des décisions à partir de l'analyse que fait ton esprit de la situation, mais ne cherche pas de joie dans de telles machinations, ni de célébration de qui tu es vraiment. Rappelle-toi ceci, la célébration véritable n'a rien à voir avec l'esprit. Si tu écoutes ton âme, tu sauras ce qui vaut mieux pour toi, car ce qui vaut mieux pour toi est ce qui est vrai pour toi. Lorsque tu n'agis qu'à partir de ce qui est vrai pour toi, tu accélères ton parcours sur la voie. Lorsque tu crées une expérience fondée sur la vérité présente, plutôt que de réagir à une expérience fondée sur une vérité passée, tu produis un nouveau toi. Pourquoi faut-il autant de temps pour créer la réalité que tu choisis? Voici pourquoi. Parce que tu n'as pas vécu ta vérité. Connais la vérité et la vérité te libérera. Mais lorsque tu auras connu ta vérité, cesse de changer d'idée à son propos. C'est ton esprit qui essaie d'imaginer ce qui vaut mieux. Arrête, sors de ta tête, reviens à tes sens. Voilà ce que veut dire revenir à tes sens. C'est un retour vers ta façon de sentir et non de penser. Tes pensées ne sont que des pensées, des constructions mentales, des créations « inventées » entre guillemets par ton esprit. Mais tes sentiments, eux, sont réels. Les sentiments sont le langage de l'âme, et ton âme est ta vérité. Voilà. Alors, est-ce que cela t'éclaire? Question. Est-ce que ça signifie que nous devons exprimer chacun de nos sentiments, même s'ils sont négatifs ou destructeurs? Réponse. Les sentiments ne sont ni négatifs ni destructeurs, ce ne sont que des vérités. Ce qui importe, c'est ta façon d'exprimer ta vérité. Lorsque tu exprimes ta vérité avec amour, cela entraîne rarement des résultats négatifs ou blessants, mais, le cas échéant, c'est habituellement parce qu'un autre a choisi de faire l'expérience de ta vérité d'une façon négative ou blessante. Dans un tel cas, tu ne peux probablement rien faire pour éviter le résultat. À coup sûr, il serait peu approprié de ne pas exprimer ta vérité. Mais c'est ce que les gens font tout le temps. Ils ont si peur de provoquer ou d'affronter un désagrément potentiel qu'ils dissimulent complètement leur vérité. Rappelle-toi ceci. Ce qui compte, ce n'est pas tellement la façon dont un message est reçu que celle dont il est envoyé. Tu ne peux te rendre responsable de la façon dont un autre accepte ta vérité. Tu ne peux que faire en sorte qu'elle soit bien communiquée. Et par bien, je ne veux pas seulement dire clairement, je veux dire de façon aimante, compatissante, sensible, courageuse et complète. Cela ne laisse aucune place aux demi-vérités, à la vérité brutale, ni même à la pure vérité. Cela veut dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Que Dieu vous vienne en aide. C'est le « que Dieu vous vienne en aide » qui apporte la qualité divine d'amour et de compassion, car je t'aiderai à toujours communiquer de cette façon si tu me le demandes. Alors oui, exprime ce que tu appelles tes sentiments les plus négatifs, mais pas de façon destructrice. Ne pas exprimer ou expulser tes sentiments négatifs ne les fait pas disparaître. Cela les garde à l'intérieur. La négativité « retenue » entre guillemets taxe le corps et alourdit l'âme. Question. Mais si une autre personne entendait chaque pensée négative que j'ai à son sujet, cela affecterait notre relation, même si ces pensées étaient livrées avec amour. Réponse. Je t'ai dit d'exprimer, faire sortir, te débarrasser d'eux, tes sentiments négatifs. Je n'ai pas dit comment ni à qui. Il n'est pas nécessaire de partager toute négativité avec la personne à propos de laquelle elle est ressentie. Communiquer ses sentiments à l'autre n'est nécessaire que lorsque ton silence pourrait compromettre ton intégrité ou inciter l'autre à croire une fausseté. La négativité n'est jamais un signe de vérité ultime, même si, sur le coup, elle paraît être ta vérité. Elle peut surgir d'une partie de toi qui n'a pas été guérie. En fait, c'est toujours le cas. C'est pourquoi il est si important de laisser sortir ces choses négatives, de les libérer. Ce n'est qu'en les libérant, en les mettant là, en les plaçant devant toi, que tu pourras les voir de façon suffisamment claire pour savoir si tu les crois vraiment. Vous avez tous dit des choses laides, pour ensuite découvrir que, une fois dites, elles ne semblaient plus vraies. Vous avez tous exprimé des sentiments, peur, colère, rage, pour ensuite découvrir que, une fois exprimés, ils ne révélaient plus votre état véritable. Ainsi, les sentiments peuvent être délicats. Les sentiments sont le langage de l'âme. Mais tu dois t'assurer d'écouter tes véritables sentiments, et non un modèle contrefait, une construction de ton esprit.